Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix et ce mois-ci, je te présente la très titrée Virginie Dedieu, triple championne du monde et médaillée olympique de natation artistique. Mais elle est aussi architecte et designer d'intérieur, car aussi impliquée qu'elle soit dans sa discipline, elle ne lui permet pas d'en vivre. Autant te dire, cher auditeur, chère auditrice, que j'étais plutôt impressionnée de rencontrer cette femme directe et rigoureuse en pleine compétition du World Trophy Final à Paris. Elle s'impose aujourd'hui comme l'une des championnes les plus innovantes pour son sport et je suis ravie que tu puisses entendre son témoignage.
Alors, je suis Virginie Dedieu. Je suis une ancienne championne de natation artistique, donc c'était natation synchronisée avant. Je suis triple championne du monde, médaillée olympique, voilà, entre autres.
Rien que ça, ça va.
Je vais m'arrêter là. Et je suis actuellement architecte intérieur designer, c'est ma profession, puisque nous ne sommes pas professionnels, donc on fait toutes des études à côté. Et donc ça, c'était ma deuxième passion. Et donc c'est ce que je pratique aujourd'hui, mais je ne suis pas vraiment partie du monde de la synchro, parce que je suis une passionnée. Donc j'interviens dans différentes... commission des athlètes, notamment comité olympique français, Paris 2024, la commission des athlètes de la FINA, donc la Fédé internationale. Mmh. Et puis après, je suis appelée en tant que chorégraphe à l'étranger pour monter des chorégraphies, des ballets d'étrangères. Voilà.
Ok, donc oui, c'est vraiment un double dedans. Emploi que tu as avec...
Oui, après, toutes les casquettes de commission, c'est du bénévolat. Donc c'est vraiment
D'accord.
des choses qui se font en plus quand c'est possible. En tant que chorégraphe, non, là, on me rémunère, mais c'est assez, c'est ponctuel, c'est une à deux fois dans l'année, des fois zéro, donc c'est suivant vraiment les demandes des pays, de l'organisation, donc c'est pas tout le temps.
Ok, et du coup, un sport comme ça où il n'y a pas de pro, c'est ça que tu
ouais,
dis
ouais.
En fait, ça veut dire que les athlètes peuvent pas en vivre.
Absolument.
Donc ça veut dire que qu'on peut aller au JO, mais on peut pas vivre de ce
Exactement.
Sport.
Exactement. Donc il y a beaucoup d'inégalités dans les sports en France et même dans notre sport suivant les pays. Donc il y a okay. quelques pays où elles en vivent, il y en a très peu, il y en a deux ou trois.
Ouais.
Donc c'est quand même assez rare. Mais en effet, chez nous, c'est vraiment une passion avant tout. Le bénéfice, c'est l'expérience qu'on en a parce qu'on peut très facilement le reporter dans un travail, la rigueur, l'investissement qu'on peut avoir, le fait de travailler en équipe parce qu'on est vraiment un sport d'équipe. Donc on va s'adapter aux autres, donner un objectif commun et voilà, toutes les valeurs du sport que ça apporte, on arrive à les retransmettre après dans notre métier qu'on choisit. Mais en effet, toutes les filles là qui sont actuellement en équipe de France et qui cherchent à aller aux Jeux Olympiques de Tokyo ne sont absolument pas payées par qui que ce soit, ni par leur club, ni par l'État, ni par la fédération. Et au contraire, elles ont l'obligation d'être à l'INSEP, donc c'était aussi mon cas quand je nageais. Et elles sont prises en charge à 80%, donc elles doivent même débourser une partie pour pouvoir être à l'internat et s'entraîner ensemble toute l'année.
D'accord, ok, donc c'est vraiment un sport pas professionnalisant,
non.
En fait. C'est vraiment dommage. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lieu où on se trouve aujourd'hui et ce qui se passe de particulier ?
Alors aujourd'hui, on est dans Paris, à la piscine Georges Valeret, et on est à la compétition qui s'appelle le World Trophy FINA. Donc c'est une série un peu comme une Coupe du Monde, une étape de Coupe du Monde. C'est la première pour la FINA, il y a 10 étapes dans l'année. et c'est aussi l'Open de France. Donc, c'est-à-dire que cette compétition-là, elle accueille essentiellement des pays, donc des nationalités étrangères, mais il y a quelques clubs qui sont invités. Donc, il y a notamment les 4 ou 5 meilleurs clubs français qui sont là également.
Waouh.
Donc, c'est une grosse compétition, puisqu'en effet, c'est la première de l'année, et les pays viennent se tester, se rencontrer, se confronter, et surtout après pouvoir s'améliorer après les retours des juges et de l'expérience qu'elles ont pu avoir en vue des grosses compétitions qu'il y a l'été, parce qu'on a ou champion d'Europe ou champion du monde, et cette année, c'est les Jeux Olympiques.
Voilà, bah ouais, c'est assez impressionnant, on sent la tension dans la piscine et tout, parce que du coup, Kalindi, qui est rédactrice ciné-série, avec Philippine, qui est aussi rédactrice ciné-série, on a fait une... Enfin, moi, je suis pas allée dans l'eau, mais elles ont fait une initiation avec Virginie, qui leur a donné des premières bases, en fait, de la natation artistique, et c'était vraiment assez impressionnant, c'est un sport... Ouais, tellement physique, enfin, qui mélange énormément de choses.
Ouais. Très complet, complexe.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je me demandais comment t'en es venue là. C'est quoi tes premiers souvenirs de sport en tant qu'enfant ?
Alors, je me rappelle exactement de tout ce que j'ai fait comme toute petite. Ça,
c'est vrai ?
Ouais, complètement. Alors, premier souvenir de sportive. J'ai fait les bébés nageurs.
C'est vrai. Ah oui, donc t'étais dedans depuis
le
début.
Alors,
quoi.
Au départ, c'est vraiment une question de sécurité. Parce que mes grands-parents ont fait une piscine et que mes parents se sont dit, il faut absolument que les filles sachent nager. Donc, ils ont fait ça pour un problème de sécurité.
Ouais.
Et bon, moi, après, j'étais très à l'aise dans l'eau, donc tant mieux. J'ai fait de la danse très tôt, à 3 ans. Et je rêvais d'être danseuse de l'opéra, en fait, petit rat de Paris. Je connaissais pas du tout la synchro. Donc, moi, tout ce que je voyais, c'était la danse, la danse. Donc, j'ai fait de la danse moderne parce que c'est ce qu'il y avait à côté de chez nous. Et en fait, c'est en cherchant en cours de danse classique. Ma mère en a parlé à la prof de danse moderne. Où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Et elle lui a parlé de la synchro. Je sais pas pourquoi. Et donc on habite à côté d'Aix-en-Provence. Elle lui a dit, mais il y a un club de natation synchronisée. Je sais qu'elle aime bien nager, qu'elle aime bien danser. Ça pourrait peut-être lui plaire. Donc, comme mes parents nous ont inscrit, ma sœur et moi, à faire du sport pour une question de santé,
ouais,
de bien-être,
bien sûr.
Donc, parce qu'ils estiment que les enfants ont besoin de se dépenser. Donc c'était vraiment pour ça à la base. Je me suis dit, bah pourquoi pas, ça peut lui plaire. On va tester et c'est ce que j'ai fait. Et en effet, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait de la danse classique à côté.
D'accord.
Après, un an après, donc j'ai commencé la synchro à 6 ans et demi, que je ne connaissais absolument pas, mais je me suis sentie très à l'aise très vite. Et j'ai fait de la danse classique donc un an après. Et en fait, comme j'ai fait rapidement de la compétition en synchro, bah je suis plus allée après à la synchro qu'à la danse, alors que je prétendais aller au conservatoire aussi en danse, on me l'avait proposé en tout cas. Quoi.
C'est vrai, d'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu la compétition en synchro, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça engage en fait ?
Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup de choses, parce qu'en effet, donc c'est complexe, comme on disait tout à l'heure, on est à la fois nageuse, danseuse, gymnaste, avec les portées qu'on peut voir. Et en effet, notre discipline, elle a plusieurs disciplines à l'intérieur. Encore plus aujourd'hui, quand j'étais petite, il y avait 3 disciplines, le solo, le duo, donc à 2, et le ballet d'équipe à 8. Et on peut passer de l'un à l'autre. On n'a pas de choix au départ. Enfin, si, c'est quand même la meilleure qui fait les 3. Et si on est moins bonne, on fait que l'équipe. Donc, c'est une sélection. Mais on peut vraiment faire les 3 si on a le potentiel, en tout cas. Donc, la compétition, c'est ça. C'est nager les différents ballets. Donc passer d'une chorégraphie à l'autre, la synchro, c'est forcément énormément basé sur la synchronisation, donc soit sur le duo, le ballet d'équipe, et donc avec la difficulté technique et physique, on doit rajouter la synchronisation.
C'est ça.
Donc la compétition, c'est ça qui est en stress. Il y a beaucoup de filles qui vont te dire j'ai peur d'oublier un mouvement, de me tromper, d'avoir un trou. Donc c'est l'appréhension des filles, ou de crever, de manquer d'air. Donc il y a forcément beaucoup de stress. Après, elle se passe pas comme en natation, en athlétisme, où tout le monde est en même temps. C'est-à-dire que nous, on passe les unes derrière les autres. Et ça peut être aussi stressant parce qu'on attend notre résultat. Des fois, on est passé, on n'a pas fini. Ou alors, quand on passe, notre concurrente est passée avant, donc on a le résultat immédiatement. Donc, il y a une gestion de stress qui peut être différente.
Ouais.
Et on a toujours un moment dans la chambre d'appel. Donc, puisqu'on passe les unes derrière les autres, on nous appelle 5 ballets avant. Il faut qu'on sorte du bassin parce qu'on s'échauffe avant. On arrive souvent, alors ça dépend des lieux, mais les grosses compétitions, on a toujours un deuxième bassin d'échauffement où on peut nager alors qu'il y a encore la compétition en cours. On sort du bassin d'échauffement, on va dans la chambre d'appel, on est obligé de passer dans ce truc-là où il y a nos concurrentes, celles qui passent un petit peu avant, celles qui passent après, donc il faut jauger, pas trop se regarder, rester dans sa bulle et partir après quand on nous appelle à son programme. Quoi.
Et tu te souviens de ta première compétition ou pas ?
Oui.
Qu'est-ce que ça t'a procuré la première fois que tu t'es mise dans le bassin comme ça et que tu t'es dit...
Alors, la première compétition, j'étais en ballet d'équipe uniquement, hein, parce que souvent quand on démarre, on fait que le ballet d'équipe. Et quand on est petite, on a ce qu'on appelle des figures imposées.
D'accord.
Donc, par contre, là, c'est un passage individuel. Toutes les filles passent individuellement devant un jury. C'est sans musique, c'est quelque chose qui se fait dans le silence, doucement. On a maillot noir et bonnet blanc obligatoire, donc là, on a des lunettes. Donc c'est vraiment un passage en patinage aussi, ça existait. Donc c'est des figures imposées, une par une, devant un jury. Et après, en fait, on fait un cumul de toutes les filles qu'on a géré les imposées avec le ballet, la note du ballet en musique.
Okay.
Et ça, c'est le plus stressant, en fait, parce que c'était là où on était toutes seules.
Ouais.
C'est lent, il n'y a pas de bruit, donc il y a vachement de tension dans la piscine. On doit passer. En plus, on a froid, donc on ne peut pas trop bouger non plus. Donc, qu'est-ce que ça m'a procuré? Je sais pas, je crois que j'étais déjà une petite fille très sérieuse et concentrée. Donc, j'étais sur mes trucs, j'avais préparé mes petites fiches. Mon entraîneur m'avait dit, donc j'avais fait mes fiches par figure, parce qu'on avait quatre figures. Donc, chaque passage, on ressort de l'eau et on attend notre passage. Donc, on peut être une centaine, donc ça peut être long l'attente.
Ah oui, clairement, ouais.
Et donc, on peut facilement sortir de la compétition dans sa tête, et donc il faut bien revenir. Donc voilà, je crois que j'ai pas trop eu d'appréhension parce que je savais pas trop à quoi m'attendre non plus.
Mmh.
Et après le fait de commencer à emballer, c'est bien parce qu'on a ses copines, on partage, on échange, donc ça c'est sympa. Il y a juste une de mes premières compétitions, donc c'était pas la première année, ça devait être la deuxième ou la troisième année où on faisait un porté un peu compliqué.
Ouais.
Et c'était moi la voltigeuse, dit voltigeuse, donc celle qui était au-dessus parce que j'étais la plus légère. Et l'entraîneur nous avait vraiment mis la pression à ce moment-là. Donc il fallait absolument le réussir et on était petites, on l'a raté très souvent quand même. Donc
ouais.
À l'entraînement, elle nous avait dit vous sortez pas, tant que vous l'avez pas fait 10 fois correctement, on l'a fait 12 fois, donc on l'a raté 2 fois. Mais je crois que ce stress-là m'a déclenché les crises de tétanie que j'ai eues après. Donc
ah ouais.
Justement à cette compétition-là, j'ai commencé à avoir ma première crise de tétanie. Donc avant de passer, donc c'est le fait d'être figée, d'avoir des crampes partout, et j'ai réussi quand même d'année en année à savoir que c'était pas grave, qu'il fallait le gérer, boire de l'eau, bouger, de l'anticiper, de le sentir arriver. Et après, c'est une préparation qu'on fait, mais c'est être attentif à son corps et se plonger dans la compète. En tout cas, je sais que une fois que la musique est partie, que je suis plongée, je suis dans le truc.
Il n'y a plus rien qui peut t'arrêter.
Donc ça se déroule. On a quand même un automatisme qui vient et je suis dans mon truc. Je suis complètement dans ma bulle.
Ouais. Ouais. Et du coup, ça t'est arrivé longtemps après ces crises de tétanie?
Ça s'est estompé au fur et à mesure. Pendant quelques années, je sentais la montée, mais j'ai réussi assez rapidement à la maîtriser, en fait.
Ok. C'est impressionnant, ça, quand même. Et est-ce que la compétition, c'est quelque chose qui te motive plutôt? C'est un truc qui t'anime? T'aimes
bien
gagner?
Alors, je pense que tous les champions, ceux qui ont gagné, ont un stress. Donc, c'est ça, le stress de la compétition, c'est inévitable. Tout le monde l'a. Et on a un stress positif ou négatif.
Mm.
Donc, c'est ceux qui gagnent, généralement, c'est celui qui est positif. Donc, en effet, j'ai un stress qui m'a stimulé, qui m'a permis d'être encore meilleur en compétition. Et tant mieux.
Bah oui, clairement. Est-ce que t'as déjà eu... peur de l'échec, peur du ridicule dans ton sport?
De l'échec, oui. Du ridicule, pas forcément, parce qu'on monte des chorégraphies, donc on sait ce qu'on va monter, ce qu'on va montrer, donc c'est préparé, c'est échangé déjà avec d'autres personnes, donc je vois pas trop pourquoi ce serait ridicule.
Parce que c'est quand même... quand j'ai vu Kalindi et Philippine tout à l'heure s'entraîner, bon après, toi, tu l'as fait depuis très petite, mais c'est quand même quelque chose de... faut se lancer pour faire des figures, faut...
Même petite, j'ai jamais eu peur de ça. Je sentais que ce que je faisais n'était pas parfait non plus, mais j'avais envie de montrer plus, et c'est là où je pense que le stress a aidé, c'était du positif, dans le sens où quand je me sentais observée, j'essayais de faire encore mieux, et donc je me dépassais pour justement ne pas être ridiculisée ou dire ça, ce que tu as fait, c'était nul. Donc c'était plutôt dans ce bon sens-là. Après, la peur, bien sûr, elle est là. On a peur de rater, de pas faire ce qu'on veut, alors qu'on l'a répété 15 millions de fois. Et c'est là où il faut se dire qu'on a travaillé pour. On est à un moment présent, parce qu'on prépare pas les Jeux comme on prépare des championnats de France. Donc on va pas être prête aux championnats de France comme on va être prête aux Jeux. Donc il faut juste se dire, ce que j'ai fait, c'est pour cette compétition-là. Donc je suis prête à ça. Si t'as bien travaillé avant... C'est le cas. Si t'as rien fait avant, c'est comme l'école, hein. On va travailler, on va échouer notre examen. Donc c'est se dire, c'est être consciente et être bien dans sa tête. Si t'as eu confiance en toi et si t'as pas triché avec toi-même, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi.
Donc toi, t'as été championne en solo c'est ça ?
Alors, j'ai été triple champion du monde en solo. En effet, on est médaillé olympique en duo, parce qu'il n'y a pas de solo aux Jeux D'accord. olympiques.
Du coup, tu étais la meilleure de l'équipe de France,
oui.
si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
C'était quand la première fois que tu t'es sentie un peu comme une exception, où tu t'es dit, bah, voilà, je veux être... Je veux soliste. Être soliste.
Parce alors, que c'est pas nous qui une... choisissons, D'accord. vraiment. C'est l'entraîneur. Donc, je veux être soliste, oui, on peut se le dire. Et c'est là où on va se motiver pour montrer à l'entraîneur que c'est toi la meilleure et que t'es capable de faire des choses que les autres savent pas faire. Mais où, là où je me suis sentie valorisée, c'est plutôt dans ce sens-là, la question.
Oui, voilà, c'est ça.
Je sais pas si c'est petite, parce que aux petites, il y a un peu tout le monde qui fait un peu tout, donc c'est vrai que j'ai vite gagné quand même par rapport aux autres, mais je me suis jamais considérée comme la meilleure, même en étant championne du monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'aller plus loin, certainement. Donc je me suis jamais mis en valeur moi-même.
Oui, parce que comme tu disais, ça reste un sport d'équipe.
Ouais. En fait. Et c'est justement, je pense, ce basculement-là de d'avoir besoin d'aide et d'avoir besoin des autres qui fait que... Moi, oui, je me prends pas pour la meilleure aussi. J'ai besoin de mes copines comme elles ont besoin de moi. Donc, je trouve que ça donne un bon équilibre sain dans la tête, peut-être. Là où je me suis peut-être sentie valorisée, il y a une expression. Enfin, il y a une année en 96, j'ai été présélectionnée pour faire les Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc, j'avais que 17 ans et toutes les autres avaient au moins 50 plus que moi. Et j'étais encore junior. Et en fait, comme elles ont estimé que j'avais vraiment ma place dans l'équipe, elles m'ont demandé de pas faire les championnats d'Europe junior, donc de ma catégorie d'âge. Et je me rappelle très bien, on était en stage dans le sud de la France, et en fait il y avait les championnats d'Europe, et à un moment donné j'ai craqué, parce que je me suis dit, mais j'aurais pu, l'année d'avant je fais vice-championne du monde au championnat du monde junior, donc c'est tous les deux ans, donc ma dernière année à moi c'était les Europes. Ouais. Je me suis dit, mais j'aurais pu gagner, j'aurais pu être championne d'Europe junior, et pour moi, comme c'était la première fois que je pouvais gagner, je me suis dit, mais j'ai loupé quelque chose, j'aurais jamais pu gagner autre chose. Donc c'est là, j'avais vraiment le potentiel de gagner. Et donc pendant l'échauffement, je me cachais un peu, mais il y a un entraîneur qui a vu que je pleurais et qui est venu me voir, et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, t'en auras d'autres, des médailles. Et là, moi, je comprenais pas tout de suite. Je dis, bah non, déjà, on va aux Jeux Olympiques en équipe. On sait très bien qu'on n'aura pas de médaille parce qu'on n'a pas le niveau d'avoir une médaille. On a fait cinquième, en effet, aux Jeux. Donc, c'était déjà super d'aller aux Jeux. Moi, j'étais contente. Bah ouais. Mais on n'avait pas de médaille. Là, j'étais encore junior et je pouvais être championne d'Europe junior. Pour moi, c'était hyper la valorisant. Voilà, c'était le truc qu'on pouvait pas me dire, mais t'inquiète pas, tu verras plus tard. Parce que, à présent, je comprenais pas. Et en fait, si, elle avait raison, parce qu'elle avait vu mon potentiel. Donc, c'est après, avec un peu de recul, je me suis rendu compte qu'elle avait peut-être raison et que je pouvais aller plus loin que juste un titre de championne ouais. d'Europe junior.
Et est-ce que tu peux me raconter un peu les clichés qui existent sur ta discipline et ce que t'en fais, en fait
Alors, bah, les clichés, clairement, quand je suis arrivée à l'INSEP, donc c'est l'Institut National des Sports où il y a tous les sports, on était les balayettes. Donc c'est
les balayettes.
Ouais, synchronettes, c'est voilà, c'est du sport ridicule.
D'accord.
Comme on peut dire, en effet, c'est voilà, c'est de la danse, ça sert à rien et c'est joli, c'est juste joli. Sauf que justement, on a réussi à faire venir des judokas voir nos entraînements, se rendre compte du nombre d'heures qu'on passe dans ouais. l'eau et comment on sort de l'eau, etc. Et après, eux venir dans l'eau, et là, ils nous ont respectés à vie.
C'était j'aurais terminé. Bien aimé voir les judokas faire de la natation synchronisée.
Donc, moi, je leur dis, venez essayer, tout simplement. Parce qu'en effet, ce qu'on voit de la synchro, c'est aux Jeux Olympiques. Donc, on le voit pas assez. Il faut qu'on arrive vraiment à voir, et de tout niveau, pour se rendre compte.
Oui.
Et ce qu'on voit au jeu, on voit des filles qui sourient tout le temps, qui donnent des expressions, qui sont largement au-dessus de l'eau, qui volent au-dessus de l'eau. On a l'impression que c'est facile. Et il y en a plein qui
ça,
pensent
ouais, la force
qu'on a
du
pied,
sort,
en fait.
Ah oui.
Alors que bien sûr que non, on a 3 mètres de profondeur, on n'a absolument pas le droit de toucher le fond du bassin. Donc les portées, c'est à la force des filles. Et c'est que de la puissance musculaire. Donc il faut juste essayer une fois dans l'eau, les filles ont essayé là, hein. Il y en a une qui est sortie parce qu'elle était trop fatiguée, c'est épuisant, rien de se soutenir au-dessus de l'eau, donc de faire tous les mouvements qu'on fait et en apnée. Ouais. Bien sûr, mais par contre, on a du mal à avoir la conscience. Faire du foot, taper dans un ballon ou faire un 100 mètres, on peut se chronométrer et on se rend compte que 9 secondes, c'est pas évident. Là, nager avec les jambes à la verticale hors de l'eau, personne n'a même trop essayé. Donc, on a du mal à comparer et à comprendre, quoi.
Bah ouais, j'imagine, mais enfin, franchement, moi, j'étais hyper impressionnée. Enfin, je voyais aussi les autres équipes mondiales à côté qui s'entraînaient. C'est vraiment impressionnant de précision et de force, quoi. C'est que des abdos. Enfin, ce qu'Alindy me disait en sortant de l'eau, elle me disait, c'est que des abdos, c'est que des abdos, c'est que des abdos. Mais du coup, j'avais une question aussi concernant cette appellation, la natation artistique et natation synchronisée. Avant, ça s'appelait natation synchronisée. Pourquoi ça a changé en artistique ?
Alors même avant, c'était artistique.
D'accord, ok. Donc c'est synchronisée qui a été une nouveauté.
Mais parce que justement, synchronisée, moi, je l'ai toujours connue comme synchronisée. Mais au départ, c'était plutôt artistique, c'était ballet aquatique même. Et en fait, les Américaines et les Canadiennes qui ont voulu faire venir le sport aux Jeux Olympiques ont dû se battre comme étant un sport. Et justement, en changeant le nom, c'était plus sportif. D'accord. Et du coup, moi, c'est ce qui me dérange aujourd'hui dans le changement. J'aime pas trop parce qu'on a eu du mal à se faire valoir et à prouver qu'on était un vrai sport technique, physique, et que c'était dur. Là, on revient avec un mot artistique. Je trouve que c'est péjoratif, alors que ça l'est. Complètement.
Bah, clairement,
mais voilà, moi j'ai un petit peu de mal sur ce point de vue-là parce que c'est comment les gens l'entendent. Après, s'ils arrivent à faire la part des choses et à le comprendre comme la gymnastique artistique ou le patinage artistique qui est plus valorisé finalement, ça me va. Mais c'est pour ça en fait que la FINA a changé, c'est pour essayer de s'équilibrer avec avec les deux autres sports. Donc gymnastique artistique et patinage artistique. Et parce qu'après, bah, le solo, c'est tout seul. Le duo, on va peut-être essayer de faire moins de synchronisation. Le duo mix, pardon, avec le garçon.
D'accord.
Donc le mot synchronisé ne va pas trop ces disciplines-là. Donc c'est aussi un petit peu pour ça.
Et du coup, je voulais revenir un petit peu aussi sur la partie esprit d'équipe. Est-ce qu'il y a une forme de sororité qui s'installe dans l'équipe et comment elle se manifeste ?
Alors, il y a complètement un esprit d'équipe et un soutien entre nous. On peut ne pas être les meilleurs amis du monde à l'extérieur, mais par contre, avoir la même façon de penser dans l'eau, la même ligne de conduite dans l'eau et le respect. Le respect est complètement indispensable dans l'équipe. Un soutien à l'extérieur, oui, je pense que forcément, et même c'est une famille un peu la synchro. Quand on croise une synchro, ben on va plus facilement lui parler alors qu'on la connaît pas du tout dans la rue. Moi aussi j'ai fait de la synchro. Ah oui, ben on a forcément des échanges et une connaissance qu'on a en commun, donc on va trouver des liens et certainement aussi des injustices qu'on a dû vivre et donc des compréhensions ou des incompréhensions qu'on a eues et sur lesquelles on est sensible. Et on va être plus attachés et arriver à avancer ensemble, quoi.
Mais oui, parce que c'est un sport d'équipe ultra particulier, je trouve, parce que, donc par exemple, le foot, qui est un sport d'équipe, mais chacun a des postes différents et peut se démarquer dans son propre poste. Oui. Là, l'objectif, c'est de
se fondre.
Toutes pareilles et de vraiment d'être homogène et de faire qu'un,
d'être
en fait.
Comme les autres. Ouais. Ouais.
Du coup, c'est ultra impressionnant. Vous devez beaucoup vous entraider, j'imagine, dans les entraînements ou...
Alors, ça, c'est vraiment plus le rôle de l'entraîneur parce qu'on n'arrive pas, nous, à se rendre compte de comment on est par rapport à la voisine de droite, si on est plus haute, plus basse, plus énergique. Donc, c'est l'entraîneur qui va nous diriger. Par contre, c'est des oui. Enfin, moi, du coup, j'ai eu aussi beaucoup, beaucoup ce rôle-là parce que j'ai eu un ressenti à l'eau qui est, je pense, assez exceptionnel. Et donc, je trouvais des astuces techniques plus vite que les autres, donc ça j'ai toujours aimé les partager. Et d'ailleurs j'ai toujours dit que j'ai été championne du monde grâce à l'équipe aussi, parce que je me suis toujours appuyée sur les autres, j'ai toujours aidé et observé les erreurs et les bienfaits des autres, et c'est ce qui m'a fait avancer individuellement aussi. Donc c'est toute cette aide et d'ailleurs dès petite on apprend à s'entraîner toute seule en gymnastique. Moi, j'ai mon fils qui fait de la gym. Je vois pas trop les petits s'entraîner l'un avec l'autre. Alors que nous, on a pas assez d'entraîneurs. On a un bassin qui est assez grand et on doit travailler des figures individuellement. Donc, on a deux filles devant l'entraîneur et puis après les huit autres, elles s'entraînent deux par deux. Donc très vite, on apprend à échanger et à s'auto-corriger et à se s'aider mutuellement.
Oui, c'est ça.
Et ça fait un bon esprit aussi.
Quoi. Bah ouais, j'imagine. Ça doit être assez soudé comme équipe. Est-ce que tu pourrais me parler d'un échec que tu as eu qui s'est transformé en réussite ?
J'en ai eu plusieurs, je pense.
Ouais, bah vas-y.
Malgré tout, même si voilà, je suis pas mal titrée et que ça a quand même bien marché, à des âges différents.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Petite, on était deux dans la même catégorie à être concurrents, donc c'est assez rare d'avoir deux filles en championnat de France du même club. Souvent, c'est une fille d'Angers, une D'accord, fille d'Aix, okay. une fille de Paris, une fille de. Il peut y avoir deux potentiels en France, mais elles sont pas du même club. Là, c'était le cas et on était vraiment en concurrence et j'avais 2 ans par contre de moins qu'elle et on se battait toutes les deux pour la première place, mais on s'entendait très bien. Donc moi, je l'aidais sur la chorégraphie parce que c'était pas son truc. Elle m'aidait peut-être plus sur la technique parce que. Elle était plus solide que moi. Moi, j'étais très fragile et légère. Donc, on était vraiment différentes dans le savoir-faire. Et cette année-là, elle est championne de France et moi, je suis deuxième. Moi, je l'ai pris comme un échec parce qu'on était très proches et que j'aurais pu gagner. Mais c'est là où les parents sont importants. Et ma mère m'avait bien dit à ce moment-là, mais c'est pas grave. T'as aussi le temps. C'est super pour elle. Enfin, tu l'aimes aussi cette copine, donc c'est bien, sois contente pour elle. Et c'est vrai, t'as raison, c'est ma copine, je suis heureuse pour elle et du coup on va avancer différemment et j'ai su profiter dans le sens tout est bien finalement, c'est qu'un sport aussi et puis j'ai le temps et je vais voir après. Donc ça c'était un petit échec parce que c'est petite. Le plus gros peut-être pour moi c'est ma deuxième place au championnat du monde en 2001, où je suis encore deuxième, alors que ça faisait 5 ans que j'étais deuxième et cette année-là, tout le monde me disait, mais tu vas gagner, t'as vraiment passé un cap, tes figures sont vraiment super fortes, donc tu vas gagner. Et je fais encore deuxième, donc derrière
c'est
la Russe.
C'est dur comme place deuxième.
Oui, c'est comme la quatrième place, ouais, c'est un peu ça. Donc surtout quand on entend tout ça des entraîneurs, des autres concurrentes qui vous prouvent que vous auriez dû et vous méritiez la première place. Mais à ce moment-là, j'étais effondrée dans le sens où je me suis dit, c'est un sport de jugement. Les Russes, c'est les Russes, elles seront toujours premières. Quoi qu'on fasse, on n'y arrivera jamais. Donc ça ne marchera pas. Parce que tout le monde me disait ça. Et donc j'étais effondrée, j'avais un peu envie d'arrêter, ouais. Alors qu'au fond de moi non, parce que ça me plaisait, que j'avais toujours envie d'avancer. Et ce qui m'a aussi pas mal aidée, c'est que un mois après, j'avais une copine dans un autre sport, le roller de vitesse, okay. Qui a eu ses championnats du monde en France, à Valence. Je suis allée la voir. Et donc c'est vraiment une copine, c'est un de nos meilleurs amis. Et elle fait championne du monde. Et pareil, elle était vice-championne du monde. Et je me suis dit, mais si c'est possible, c'est trop beau de gagner, il faut que je continue. Donc ça m'a reboostée. Et après, j'ai analysé autrement. Je me suis dit, bon, si t'as pas gagné, c'est qu'il n'y a pas que l'impression où les gens te trouvent forte. Il y a encore autre chose. Donc j'ai analysé autrement comment ma concurrente nageait. J'ai arrêté de me trouver des excuses, en gros. Et de me dire, non, t'es moins bonne, il faut que tu trouves autre chose, il faut que tu progresse encore dans les trucs qui vont pas, et plutôt que de te dire oui ça c'est fort, c'est meilleur qu'elle, mais ok, tant mieux, garde-le, et par contre travaille le reste, il manque encore des choses, donc il faut que t'ailles plus loin, quoi. Et je pense que c'est comme ça que j'ai nagé différemment et que j'ai pu passer un cap et que j'ai finalement gagné, donc c'est faisable, c'est possible quand on est française.
Et du coup, comment ça se passe la natation synchro, enfin artistique, au niveau de la mixité? Donc, tu m'as dit qu'il y avait des duos mixtes. Est-ce que les hommes font aussi beaucoup de natation synchronisée?
Alors, il y en a toujours eu. Donc, moi, j'en ai toujours vu depuis toute petite. Donc, ça fait quand même plus de 30 ans que je nage. Donc, il y en a eu. Par contre, la FINA a décidé de faire une discipline à part entière, c'est-à-dire médaillable. Avec le duo mix, donc comme le couple en patinage artistique ou comme un pas de deux en danse, parce qu'avant en fait les garçons ils étaient mélangés avec nous, mais comme il n'y en avait pas assez, il n'y avait pas de médailles
de
pour eux,
pour les hommes.
Et en étant mélangés avec nous, nous au championnat de France, on a des garçons qui ont été champions de France en équipe, donc il était seul parmi 7 filles, ou en duo, donc un duo mix qui était déjà un duo mix, mais lui donc nageait avec une fille. Ils ont été champions de France en concurrence avec que des filles,
okay.
Parce que c'était le meilleur duo qu'il y avait là. Mais par contre, en international, on peut comprendre qu'à niveau égal, un homme est plus fort physiquement qu'une femme. Donc, il va forcément aller ou plus vite ou plus haut. Et dans un ballet d'équipe, il va avantager le porté qui va sortir plus haut. Donc, ils n'avaient pas le droit de nager en Europe et en championnat du monde.
Ok.
Donc c'est pour ça qu'on les voyait pas. Et là, le fait de faire le duo mix, ça a développé. Ils étaient plus en concurrence avec deux filles. Ils étaient en concurrence que avec des duos mixtes.
D'accord.
Donc ça a permis à la première année à 10 pays de sortir. Et au fur et à mesure, là, même en France, on a chez les jeunes, on a 5-6 finalistes français, alors qu'on n'en avait pas du tout. Donc voilà, ça commence à se développer. Peut-être qu'après, on aura un podium que de solo garçons, par exemple, ou d'une équipe de 8 garçons. L'idéal, ce serait ça. Mais pour l'instant, il n'y en a pas assez pour pouvoir faire ça.
Ça reste quand même une discipline assez féminine.
Oui.
En règle générale.
Comme la GRS. Mais pourquoi pas? Parce que le patinage, c'est complètement mixte aujourd'hui.
Oui,
on le voit, c'est complètement équilibré. Mmh. Il y a autant de garçons que de filles sur le couple, sur l'individuel. Donc ça pourrait vraiment être la même chose en synchro. Il n'y a pas de problème.
Et du coup, toi, quand tu nageais avec des garçons, comment ils étaient intégrés au groupe? Est-ce qu'ils étaient traités un peu différemment ou pas?
Alors,
du tout
moi, dans mon club, il n'y en a pas eu.
D'accord.
Donc le garçon avec qui j'ai nagé en 2015, justement, il était à Montauban et après à Cergy-Pontoise. Et il nageait complètement avec les filles. Donc c'est les mêmes entraînements. Après, moralement, je ne sais pas comment ça s'est passé puisque je n'étais pas là. Mais je pense qu'il était traité comme humainement, comme une fille, parce qu'il était là. Mais il n'avait pas de différence, je pense. Moi, quand j'ai travaillé avec lui, c'était un peu particulier parce que je ne faisais même plus partie de l'équipe de France. Je suis vraiment revenue que pour cette discipline. Donc on était tous les deux, tout le temps ensemble. On était
D'accord.
que tous les deux.
Ouais.
Mais je ne l'ai pas considéré différent qu'une partenaire fille. C'était un athlète comme un autre. Il avait ses lacunes et ses qualités. Je l'aidais sur ses lacunes. On avançait sur ses qualités. Et on travaillait ensemble techniquement, physiquement. Parce que le potentiel du duo, c'était de faire un pas de deux, quelque chose de différent de deux filles. Et on a avancé sur cette idée-là. Quoi.
Et c'est quoi la plus belle rencontre que tu as fait grâce à ton sport?
Mon mari.
Ah oui.
Oui, je pense quand même. Je l'ai rencontré à l'INSEP, à l'Institut National D'accord. des Sports, puisque c'est aussi un sportif. Et donc, c'est le père de mes enfants aujourd'hui, mon mari. Donc, j'en ai fait plein de belles rencontres. Mais je pense que la plus belle, je peux quand même dire que c'est celle-là.
Et qu'est-ce qu'il fait comme sport?
Il faisait du baseball.
D'accord, ok.
Qui est du pas baseball. Très connu.
Bah non, c'est marrant. C'est deux sports un peu atypiques.
Ouais, complètement.
Et du coup, en parlant de sport atypique, comment ça se présente la natation synchronisée en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs? Est-ce que c'est en hausse un peu,
oui,
les participations?
Oui, ça se développe toujours. On est, je crois, à peu près 18 000 licenciés, donc c'est pas mal quand même. Sachant qu'il y a énormément de clubs qui ne licencient pas ces filles parce qu'elles font que des galas ou des petites représentations,
okay,
et pas des compétitions. On est obligé d'être licencié quand on fait des compétitions, mais c'est quand même valorisant aussi pour nous de savoir si elles pratiquent. Et il y a plein de clubs et d'associations qui ne sont pas licenciés du tout.
D'accord.
À Biarritz, par exemple, c'est une association, c'est pas un club. Il y a une soixantaine ou 70 filles, aucune n'est licenciée. Et il y a plein d'associations comme ça en France où c'est le cas. Donc on est beaucoup plus que 18 000,
ouais, d'accord,
finalement.
Ah,
et je pense que ça pourrait plaire à encore plus de filles. Après, le problème, c'est qu'on se bat dans des créneaux de bassin, dans des clubs où il n'y a pas que de la natation synchronisée. Il y a d'autres disciplines. Donc c'est pas comme en salle de judo où le tatami il est que pour les judokas. Nous, il y a le public, il y a les lycées, il y a les collèges, il y a la natation, le water polo, la natation synchronisée. Donc
ouais, c'est ça.
Il faut se partager. Et
puis il faut être équipé aussi.
On a du mal à s'entraîner correctement dans une ligne d'eau, c'est sûr.
Oui, c'est ça, il faut jouer un peu des coudes. Quoi.
Ouais. Et on manque d'entraîneurs aussi. Quoi.
Ouais. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et toi, du coup, tu entraînes un petit peu aussi ou pas?
Alors, j'entraîne bénévolement dans mon club, parce que je suis toujours là et que je peux toujours aider, ça me plaît. Mais donc, mon métier premier, et ce qui me fait gagner ma vie, c'est l'architecture intérieure et le design. Et après, par contre, de ma renommée, de mon savoir-faire, parce que j'ai été vraiment... novatrice dans mon sport, j'ai inventé des choses, j'ai amené aussi des musiques différentes. Et
comme quoi par exemple?
En fait, il y avait pas trop de chansons avant.
Ok.
Donc mon premier solo où j'ai gagné les championnats du monde, c'était sur la musique de Sakum Tala, un spectacle de Marie-Claude Pietragala sur Camille Claudel, donc là qui était très classique violon, voilà. Et une fois que j'ai gagné, j'ai été une fois championne du monde, je me suis permis de trouver une musique originale parce qu'avant j'aurais pas pu. Et
ouais,
ma deuxième musique qui a après, je pense vraiment découlé sur plein de choix dans le même style, c'est It's Also Quite de Björk. Qui était une chanson, et on le faisait pas trop à cette époque-là, et aujourd'hui il y en a plein.
Ouais,
et
c'est
je
pense
que
vrai.
Ça a déclenché ça. Après, c'est vraiment des mouvements dans la synchro. J'ai créé des mouvements qui ont été copiés, répétés, et
une
façon
une fierté,
de nager.
Ça,
ouais, il y a des figures que j'ai inventées, et donc voilà, dans la chorégraphie j'ai pas mal innové vraiment. Et moi, c'est ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que d'année en année je voulais vraiment faire des choses très différentes.
Ouais, c'était tu T'as construit bah, en fait ton sport.
Je me considérais un peu comme une actrice et puis ça sert à rien de nager de la même manière. Et alors on le fait plus dans le ballet d'équipe, dans le duo un petit peu moins suivant sa partenaire parce qu'on n'est que deux, on peut choisir un peu plus. En ballet on n'a pas le choix, mais en solo bah, c'est l'idée, c'est de pouvoir se faire plaisir et de nager différemment chaque année. C'est comme un acteur, il fait des films plus il fait des films variés et plus c'est intéressant.
Bah oui.
Donc c'était la même chose. Donc c'est du coup on m'appelle en tant que chorégraphe, donc plutôt pas mal à l'étranger. Et donc ça je le fais de temps en temps et donc ça dépend des années. Là par exemple l'année olympique tous les ballets sont assez figés, donc je suis pas mal intervenue l'année dernière. Cette année j'ai fait qu'un pays parce que pas mal de ballets sont repris de l'année d'avant, donc voilà, ça se change pas tout le temps.
Mais du coup tu dois être le modèle de plein de jeunes filles qui font de la natation synchronisée.
J'espère.
ton modèle, enfin c'est qui
Moi j'ai beaucoup aimé une japonaise, Fumiko Kuno, elle s'appelait, parce que justement au niveau artistique elle a ressorti quelque chose de vraiment différent. Alors en fait historiquement parlant, il faut savoir qu'en synchro on faisait en musique un peu du pêle-mêle, c'est-à-dire on commençait une musique un peu moyenne en rythme, lente au milieu et rapide à la fin. Et ça pouvait passer de Carmen à je sais pas, je vais dire autre chose, Tchaïkovski à autre chose. Avant, ils s'en fichaient un peu du style et des
musiques. Ça pouvait tout mélanger, quoi.
C'était un peu n'importe quoi. J'exagère un peu avec ces deux exemples-là, mais c'était un petit peu ça. Et elle a vraiment commencé à porter une histoire, à avoir une même musique, mais qui variait par contre, ça n'empêche, mais une histoire. Et ça m'a vraiment parlé, en fait. Ouais. Et c'est ce que j'ai aussi suivi et apporté après. Alors après, tout le monde s'est mis à faire des thématiques, et tant mieux, parce
oui, c'est
que
ça,
c'est
parce
plus
que
intéressant.
Maintenant, même les maillots de bain sont en accord avec les thématiques.
Et puis, on a des musiciens aujourd'hui qui travaillent avec nous. Avant, c'était les entraîneurs qui faisaient des montages. Donc, c'était stop, play, hop, on passe d'une musique à l'autre. C'était pas très joli à entendre. Alors que là, on a vraiment des musiques qui sont retravaillées. Forcément, le temps est limité, donc on peut pas prendre un truc tout fait. Donc, on les retravaille à chaque fois. Et il y a des musiciens qui travaillent avec nous à chaque fois, quoi.
Wow.
Et donc, ouais, Fumiko Kuno était vraiment un exemple. Après, moi, j'ai beaucoup regardé d'autres sports, notamment le patinage artistique. Oksana Bayul, la russe, je sais pas si ça te parle, qui a été championne olympique en 92. Katarina Witt, qui est une très, très grande championne de patinage. Les Français en couple, enfin, en danse, la danse en elle-même, la GR. Moi, je regardais tous les sports artistiques et tout ça m'a inspirée, en fait. Et dans ce classique, je peux pas ne pas parler de Sylvie Guillem et Marie-Claude Pietragala. En fait, c'était plus elles mes exemples qu'en synchro, parce qu'au départ, je parlais que de danse.
Ouais, donc c'était vraiment la danse avant tout, et après.
C'était mon inspiration et ma référence, quoi.
Et pour finir, est-ce que tu pourrais me parler du meilleur pep talk que tu as jamais eu ?
C'est du meilleur
pep talk, tu sais, le discours de motivation. Est-ce qu'on t'a dit une phrase qui t'a marqué et qui t'a inspiré tout le long de ta carrière ou
J'ai en tête tout est possible, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit en particulier.
Mais c'est ce que tu te dis.
Et se faire plaisir avant tout, de toute façon, parce que en effet, on n'est pas professionnel et c'est que du sport et du plaisir et ça t'apporte quoi qu'il en soit. Non, je vois pas quelqu'un qui m'ait dit un truc en particulier. Je crois que je me suis construite avec des exemples des autres, des échecs ou des réussites. Et je me suis fait mes petites listes.
T'es très observatrice.
Oui, complètement. Mais je pense que c'est important pour faire le moins d'erreurs possible. On en fait. Mais moins on en fait, plus on avance vite. Donc, après, non, les erreurs nous font vraiment souvent passer des gros caps. Mais l'observation, ça permet sur le moment à l'entraînement d'aller plus vite. Quoi. Ouais.
Et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille qui va faire sa première compétition, si tu pouvais te parler à toi dans le passé et que tu te voyais faire ta première compétition en natation synchronisée, qu'est-ce que tu te dirais?
Alors, le meilleur conseil que j'ai à donner sur la compétition spécifique, c'est le moment présent. Donc, rester chaque chose en son temps. Donc, même si on a fait une erreur, on s'attarde pas là-dessus, on avance, on passe à ce qu'il y a sur la suite, etc. Donc, vraiment, le moment présent, c'est un mot-clé. Et moi, parce que j'étais un peu aussi capitaine dans suivant les équipes de France et je le répétais souvent. Ça, c'est important. Après, de manière générale, c'est fais-toi plaisir. Il n'y a pas besoin non plus, en effet, de stresser. Donc, respire un grand coup et donne. Donne et partage.
Très bien. Merci beaucoup, Virginie, pour cette interview.
Merci à toi.
C'était trop, trop cool.
Merci.
Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.